Donc voilà, je voulais vous présenter, c'est un petit ouvrage de Didier Fassin qui s'appelle Punir. Et c'est un ouvrage. Alors d'abord, c'est un spécialiste de ces questions. Il a travaillé sur l'asile, sur la raison humanitaire, mais aussi en 2011 sur la force de l'ordre, l'anthropologie de la police, l'ombre du monde, c'est une anthropologie de la condition carcérale, et sur juger, réprimer, accompagner. Donc là, il s'agit d'un ouvrage qui est beaucoup plus simple, plus accessible, plus facile à lire. Et il s'agit dans cet ouvrage d'une réflexion sur la propension de la demande sociale à punir. Donc il part d'un constat que nous vivons un moment punitif. L'ensemble du monde occidental vit une période qui est la plus répressive de son histoire. Alors, juste quelques chiffres, j'en donnerai pas d'autres. Pour la France, en 1955, 20 000 détenus. En 1985, 43 000 détenus. En 2015, 60 000 détenus. Et en 2016, 70 000 détenus. S'ajoute à ça toutes les personnes qui sont en détention de jour, etc. etc. Voilà. Alors, ces chiffres sont pour la France. Si on prend les États-Unis, alors c'est multiplié par 5 ou 6. Hein, c'est énorme. Alors, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que cette augmentation de la pénalisation, de la répression, ne correspond pas à une augmentation de la criminalité. Elle correspond à deux phénomènes. L'évolution de la sensibilité sur l'illégalisme et la déviance, c'est-à-dire qu'on supporte de moins en moins la déviance, et puis une focalisation du discours politique sur la sécurité. Voilà. Donc la conjugaison de ces deux choses, de l'intolérance d'une part et du populisme de l'autre, fait que le châtiment, qui est censé apporter la solution à la criminalité, devient un problème. L'auteur fait une longue introduction à partir de deux récits. L'un qui est ethnographique, qui est rapporté par Malinowski, c'est le cas de Kima I, des îles Trobriand. Et celui-ci, ce garçon, c'est un jeune garçon, il entretient une relation endogamique avec sa cousine. C'est un péché extrêmement grave dans cette tribu. C'est l'infraction la plus grave, mais elle est traitée de façon par une désapprobation publique et par des actes magiques qui vont faire que, c'est réprouvé, mais finalement un petit peu toléré. Le deuxième récit, c'est le récit d'une journaliste américaine qui raconte l'histoire de Calif Broder. Là aussi, c'est un jeune de 16 ans qui est dans le Bronx. Et qui est accusé de vol. Alors évidemment, on a dit qu'il a volé, mais la police, quand elle l'arrête, elle ne trouve rien, il n'a aucune preuve. Finalement, il est emprisonné pendant 4 ans, dans une prison extrêmement dure. Et après 4 ans de procédure, à la 31e audience, quand on n'a rien sur lui, eh bien, il est fini par être libéré. Donc on abandonne les poursuites. Donc on a deux cas ici. Le premier cas, c'est un crime sans punition. Et le deuxième, c'est une punition sans crime. Voilà. Donc à partir de ces deux récits, l'auteur il fait vaciller un certain nombre d'évidences. Il met en cause le principe selon lequel, s'il y a un crime, il y a une punition, c'est-à-dire l'universalité et la proportionnalité de la peine. Et puis, il met en évidence également l'idée que il y a différentes logiques qui concourent à la prise de décision d'une sanction et d'une punition. Pas seulement la pénalisation. Entre ces deux récits, eh bien, évidemment, il y a la place pour une discussion sur qu'est-ce que c'est que la nature du punir. Et cette discussion sur la nature du punir s'organise dans cet ouvrage autour de trois questions. Premièrement, qu'est-ce que punir ? Deuxièmement, pourquoi punit-on ? Et enfin, troisième question, qui punit-on ? Donc, première question, qu'est-ce que punir ? Alors, pour qu'est-ce que punir? On a évidemment un certain nombre d'éléments qui cherchent à objectiver, à rendre objectif ce que c'est que punir. Alors, juste comme ça, parmi d'autres choses, l'infraction à une règle légale, par exemple, l'imputation à l'auteur présumé d'infraction, et puis une autorité institutionnelle qui est légitime et qui inflige la sanction. Bon, et il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Mais tous ces critères, d'après l'auteur, sont fragiles, enfin il les démonte les uns après les autres, et restent finalement comme squelette de cette « qu'est-ce que le punir ?» deux questions. Le punir se distingue de la vengeance, et deuxièmement, le punir, c'est l'application d'une souffrance. Alors l'application, la distinction du punir et de la vengeance, ça apparaît déjà chez Thomas d'Aquin. Pour Thomas d'Aquin, la punition doit apporter un bien, que ce soit pour le coupable ou pour la société. Si la punition, la sanction, le châtiment comporte un plaisir chez celui qui le fait, alors ça devient une rétorsion illicite. Donc on comprend bien la distinction entre châtiment et vengeance. Alors cette distinction a fait l'objet d'une conceptualisation plus poussée. Malgré tout, elle reste fragile parce que dans la pratique, la punition n'est jamais pure. Selon Durkheim, toute peine est en partie vengeance. Et dans la pratique, on assiste à une banalisation des formes extrajudiciaires du châtiment. Au final, la distinction du punir et de la vengeance reste ce qu'on appelle une idéalité. C'est-à-dire, c'est vrai dans l'idéal, mais pas dans la pratique. Reste la deuxième question, le punir, c'est l'application d'une souffrance. L'équivalence entre punir et faire souffrir, c'est également un axiome qui résiste mal à l'analyse. Selon Nietzsche, c'est le premier à critiquer cette équivalence. Au départ, le punir, c'est recouvrer une dette liée à un crime. Alors, si vous voulez, l'analyse de Nietzsche, elle part d'une généalogie des termes. Donc, selon lui, punir, c'est recouvrer une dette liée à un crime. Le coupable doit payer, doit compenser, doit réparer, et non pas être châtié. Et on retrouve cette idée de dette dans les récits ethnologiques. Donc, dans l'histoire et dans l'ethnologie, on s'aperçoit que le punir s'inscrit d'abord dans une économie de la dette. Ce n'est que par la suite que cette dette prend un sens doloriste, et au Moyen-Âge, avec, sous l'effet du christianisme, un sens rédempteur. Donc l'axiome de la souffrance résulte de deux glissements. Premièrement, d'une logique de la victime dans le cadre d'une économie de la dette, à une logique de l'auteur du crime, une économie morale du châtiment, et de cette logique du crime et du châtiment à une logique de la faute, qui est une économie du châtiment expiatoire, rédempteur. Historiquement, on peut dire que cet axiome va faire quand même l'objet d'un double processus d'évolution. Premièrement, il va y avoir un processus d'humanisation. Cette souffrance, on va chercher à la rendre de moins en moins lourde. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'idéal des Lumières, la prison est un premier trait de l'humanisation. Et il en sera de même de la guillotine. Deuxièmement, un processus de laïcisation et de sécularisation. C'est-à-dire que la prison est un moyen de réfléchir et de s'amender, et non plus, et de moins en moins, en tout cas, un processus expiatoire. Au total, et là on rappelle des ouvrages de Paul Ricoeur et de Claude Lefort, il y a une part irréductible du théologique dans le juridique, et à la question « qu'est-ce que punir ?», la réponse se résume à trois éléments. L'individualisation de la peine, l'infliction d'une souffrance, et troisièmement, un discours de l'amendement et de la réparation. Donc voilà pour ce qui en est, qu'est-ce que punir ? Maintenant, pourquoi punit-on ? Dès lors que le châtiment s'inflige sous forme de souffrance ou de violence, il ne suffit pas de l'humaniser ou d'en éviter les abus, il faut le justifier. Et si l'on cherche à justifier la punition, le châtiment, eh bien, on est en face de deux doctrines, enfin de deux séries de doctrines. La doctrine utilitariste et la doctrine qu'on appelle par la rétribution. Alors, la doctrine utilitariste, elle est représentée par Bentham, Benthan, c'est un philosophe juriste anglais. Le châtiment vise le bien-être de la société, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas tellement du criminel. Le but pour le châtiment, c'est de réduire la criminalité. C'est la théorie du moindre mal. En fait, on admet que punir, c'est faire un mal, mais c'est un mal nécessaire pour éviter un mal plus grand à la société. Donc, elle consiste principalement à prévenir par la réforme du criminel, par sa neutralisation, vous voyez bien sur quelle forme on peut le neutraliser, voire par la dissuasion. Reste la deuxième approche, c'est l'approche qu'on appelle rétributiviste. Elle est représentée par Kant, et c'est une approche qui est diamétralement opposée, puisque elle est centrée sur l'acte et le coupable. Le problème de la punition, ce n'est pas qu'elle soit efficace, c'est qu'elle permet de trouver la juste punition pour permettre au coupable d'assumer sa responsabilité. Donc on voit bien la différence de logique entre ces deux approches. Donc le principe de justice qui se dégage, c'est un principe qui consiste à trouver une juste équivalence entre un mal infligé à autrui et l'obligation de le faire souffrir en conséquence. L'enjeu du punir, c'est donc d'exprimer le ressentiment, l'indignation, la réprobation publique. Et cette théorie du punir, évidemment, est celle qui a le plus de crédit aujourd'hui. C'est l'approche dominante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque à propos de ces deux théories ? C'est qu'elles sont opposées, mais pas incompatibles. Elles donnent lieu à des mixtes qui expliquent à la fois le fonctionnement réel et les débordements de la société punitive. Pour Nietzsche, qu'on réutilise ici, impossible de dire pourquoi on punit. Il y a trop de raisons, car la raison de punir puise dans des justifications qui sont impures, obscures, et elles témoignent du mal de l'âme humaine. C'est pourquoi, entre les deux doctrines, celle de Bentham et celle de Kant, eh bien, il préfère l'approche de Dostoïevski, qui est plus pertinente que celle de Kant et de Bentham. Et c'est la raison pour laquelle il nous invite à faire une approche plus empirique. Alors, pourquoi punit-on ? Que donne cette approche empirique ? Et là, l'auteur, alors moi, je n'ai pas trop cité d'exemple, mais il en faut quelques-uns. L'auteur, à ce moment-là, propose de réfléchir sur plusieurs situations qui paraissent simples en apparence. Donc, il y en a trois. Il y a trois jeunes qui chahutent près de leur foyer et ça va dégénérer. Il y a un homme de 30 ans qui est interpellé pour conduite sans permis et sans assurance dans le box des accusés. Et puis, troisième situation, un détenu qui injurie un surveillant et il s'ensuit une commission de discipline, etc. Mais à chaque fois, on s'aperçoit que ces situations simples au départ mettent en jeu des complexités qui débordent tout cadre théorique. On voit que la police ne se contente pas de maintenir l'ordre. Un simple contrôle d'identité, la façon dont il est fait, dont il est pratiqué, la façon dont il y a une réaction en chaîne, un simple contrôle peut dégénérer et finir par des gardes à vue. Et c'est ce qui va se passer. Deuxièmement, la justice, elle peut condamner de façon routinière, faute d'alternative. La personne sans permis, etc., bon, on ne sait pas quoi faire, et on reconduit une sanction de la même manière. Et puis enfin, dans le troisième cas, la pression du public, des usagers, le cadre institutionnel fait qu'on va être obligé de prendre une sanction, même si elle est à moitié justifiée. Donc c'est le cadre institutionnel qui va déterminer la sanction. Il en résulte que la rationalité n'épuise pas les raisons du punir. Et pour Durkheim, la peine relève d'une réaction passionnelle toujours en excès et qui redouble la souffrance. Le monde du punir ainsi est opaque, impénétrable, il est fait d'abus de pouvoir et d'impunité, et loin de l'intention initiale de l'amendement moral des détenus. On remarquera qu'il y a en marge des jugements, des pratiques parallèles du châtiment, doublées d'une demande sociale d'incarcération plus dure. C'est pourquoi le punir est inséparable d'une part d'ombre et de jouissance d'une souffrance provoquée. En résumé, les approches philosophiques et juridiques sont un effort pour conjurer la dimension obscure du punir et tenir à distance ses excès qui, selon toute vraisemblance, ciblent certaines catégories sociales au détriment des autres. Ce qui m'amène à la troisième question, qui punit-on ? Qui punit-on ? Eh bien, on punit en général les catégories populaires, marginales et stigmatisées. La problématique, c'est que si la justice est juste, elle doit concerner que les coupables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on constate de profondes inégalités dans la distribution du châtiment. Au point que Michel Foucault considère qu'à travers le système pénal se joue une sorte de guerre civile qui oppose les riches contre les pauvres. Le criminel est l'ennemi social, il a déclaré la guerre à la société, et la société se défend en le pénalisant. Il y a donc un soupçon sur la justice. Le système pénal dans sa pratique met en défaut le principe même de la justice, à savoir la neutralité et l'égalité devant la loi. Alors ce soupçon est exprimé clairement par l'opinion. Quand on pose la question à des détenus, ce que fait l'auteur, il dit tout de suite, évidemment, il y a la justice pour les pauvres, et puis les riches ne sont pas concernés. Ce constat, il est validé statistiquement. La justice touche plus les milieux populaires et épargne les puissants. Alors, on n'avait pas attendu cette époque. Déjà, La Fontaine disait dans Les animaux malades de la peste, selon que vous êtes puissant ou misérable, etc., etc. Donc, on peut mesurer cette impression à travers l'évolution de la population carcérale. La population carcérale, elle augmente. Les catégories populaires y sont surreprésentées, sans que cela corresponde ni à une explosion de la criminalité, ni à une propension à la criminalité chez certaines populations, ni même à une sévérité différentielle, puisque l'opinion a tendance à accuser le laxisme de la justice. Ce qui explique ce deux poids deux mesures, c'est l'instrumentalisation de la justice au profit de choix de société. La société établit une hiérarchie des actes qu'elle réprouve, et ça Durkheim l'avait déjà dit, ce qui s'appelle crime, c'est ce que nous réprouvons, et pas l'inverse. Donc il y a dans chaque société une approche spécifique du crime et du châtiment. Pour ce qui concerne la société occidentale, le soupçon sur la justice relève de ses choix. Il y a une différenciation des infractions et de leurs auteurs, doublée d'un processus de dénégation et d'effacement. Pour comprendre ce choix et cette évolution vers plus de châtiments, il faut partir de l'idée de panique morale. Alors ça, c'est un concept qui est mis en jeu dans cet ouvrage, mais ce n'est pas le seul à l'utiliser. Pour expliquer cette situation, la panique morale, c'est un phénomène d'opinion avec des effets médiatiques et politiques qui tournent autour de la peur de la délinquance dans les quartiers populaires et le besoin exacerbé de sécurité. Donc ce contexte populiste, parfois proche de la psychose, motive des politiques pénales et policières. Ces politiques policières font que le contexte social, économique et territorial de la délinquance est prédéfini. Si vous voulez, les lieux de la délinquance sont bien déterminés à l'avance. Et la police cible a priori ces populations qu'on va dire punissables. Elle missionne la police dans un rôle de justice. Elle légitime des pratiques policières à l'origine de la condamnation dans le cadre de la présomption, non pas d'innocence, mais de culpabilité. Oui, je vais y arriver. Dans ce même contexte, la panique morale oriente la politique pénale. Le tribunal devient le lieu par excellence de la diffraction du social, puisque la justice cautionne des mesures préventives, des mandats de dépôt, des comparutions immédiates, etc. Donc, malgré un idéal de neutralité, et le traitement de la délinquance met en cause deux principes généraux du droit, excusez-moi. D'une part, la notion de responsabilité. La responsabilité légale est formellement établie, mais de façon très rapide et superficielle. Elle ne tient pas compte des circonstances du contexte social et économique qui entraînent les actes délictueux, si bien que le sujet est condamné à endosser seul la responsabilité totale de ses actes. Juste une petite citation. En condamnant, la société s'exonère de sa propre responsabilité dans la production et la construction sociale de la délinquance. Le deuxième principe qui est mis en cause, c'est l'individualisation de la peine. Parce que là, l'individualisation de la peine, elle augmente les disparités du jugement et les éléments du contexte social incriminé sont utilisés à charge de l'individu pour évaluer le risque de récidive. Deuxième citation, il y a donc un resserrement du châtiment sur l'individu, jugé responsable, tenu pour seul comptable au passé pour les actes qu'il a commis et au futur conditionnel pour les actes qu'il pourrait commettre. Bref, si on résume, qui punit-on ? Eh bien, on perçoit qu'il y a un vrai décalage entre l'idéal de la peine juste et le monde réel où transparaît une inégale distribution des peines. En conclusion, l'auteur invite à repenser la notion de châtiment en le débarrassant des fausses évidences et des conceptions pures qui n'existent pas dans le réel. Et il invite à trouver un chemin balisé par Lévi-Strauss entre le relativisme culturel d'un côté, puisque chaque société a son système de pénalité, et l'universalisme éthique. Et cela à partir d'une critique de la valeur de nos valeurs suggérée par Nietzsche. Alors le Nietzsche qui est souvent cité, c'est la généalogie de la morale. L'auteur rappelle les principales conclusions de l'ouvrage et y répond par anticipation aux critiques qu'elles peuvent susciter, l'irénisme, l'élitisme et l'inconséquence. On pourra ajouter une dernière formule, l'enjeu étant dans cette question de penser le châtiment comme un moyen de réguler une société juste et non un moyen privilégié de sauvegarder une société conservatrice, populiste et de plus en plus punitive. Voilà.